Et donc aujourd'hui, nous accueillons Jocelyne Porcher. Alors en fait, Jocelyne va se présenter elle-même, ce sera beaucoup mieux que si c'est moi qui le fais. Mais en deux mots, je vais quand même dire deux, trois phrases avant de donner la parole. Donc Jocelyne est directrice, Jocelyne Porcher est directrice de recherche à l'INRA à Montpellier. Et elle travaille depuis 15 ans, 20 ans, enfin, elle dirait elle-même, sur la question de l'élevage et de son industrialisation. Elle va vous expliquer ça, ce qu'elle appelle l'élevage, ce qu'elle appelle les productions animales. Et aujourd'hui, donc, l'objet du séminaire, c'est de présenter son dernier ouvrage, que voici, qui s'intitule « Cause animale, cause du capital ». Donc elle va traiter de cette question. Alors on aura aussi la place après dans le débat pour échanger, approfondir certains points, parce qu'en une heure et demie, c'est un peu difficile de tout présenter. Donc l'idée, voilà, c'est d'essayer de montrer, Jocelyne, les liens entre la cause animale et le développement du capitalisme, les liens qui peuvent apparaître comme paradoxaux. Voilà, et donc Jocelyne, bah, peut-être en quelques mots, si tu veux nous parler de ton parcours, comment tu es arrivée à l'INRA, ce que tu as fait avant. Voilà.
Bah, bonjour. Donc voilà, je suis effectivement directrice de recherche à l'INRA actuellement en socio.
Ça va ? Ouais.
Ouais. En sociologie, alors en sociologie, est-ce qu'on j'essaie d'appeler maintenant sociologie des relations entre humains et animaux. Donc si on le dit en anglais, c'est dans le champ des animal studies, donc avec quand même une entrée pluridisciplinaire. Bah, à la fois l'anthropologie, la philosophie, la géographie, etc. Donc, pour englober cet objet de recherche qui est l'animal dans la relation avec l'humain et dans un cadre spécifique qui est celui du travail. Et donc, moi-même, j'ai été éleveur de brebis dans mon jeune âge. Après, j'ai travaillé dans des systèmes industriels de production porcine. Et puis j'ai aussi travaillé dans la bio, enfin j'ai fait voilà, différents métiers avant de reprendre des études et finalement voilà, de rentrer à l'INRA il y a une vingtaine d'années sur la question de la souffrance au travail dans les systèmes industriels porcins. En fait, c'est... Donc, pendant toute une période, j'ai travaillé là-dessus, sur, en fait, avec la question... j'ai moi-même été salarié dans ces systèmes industriels, donc ça m'étonnait quand je travaillais, compte tenu de la dureté du travail et de la violence qu'on exerce dans ce milieu envers les animaux, je m'étonnais que les gens restent là, en fait. Je me disais, mais pourquoi ils restent ? Pourquoi ? Alors que je sentais qu'eux-mêmes n'étaient pas contents de ce qu'ils faisaient, etc. Et donc, c'est des choses que j'ai reprises après en faisant de la recherche, en faisant l'hypothèse, en fait, que les gens souffraient au travail et que... pour des raisons à définir, il tenait au travail. Et donc j'ai travaillé cette question après que je sois rentré à l'INRA dans le laboratoire de psychodynamique du travail de Christophe Dejour. C'est un spécialiste du travail, et notamment des aspects psychiques du travail, conséquences du travail sur la santé notamment. Et donc j'ai travaillé dans son labo plusieurs années donc, sur cette question de la souffrance au travail. Et donc j'ai creusé... Voilà, cette question-là, pourquoi les gens tiennent au travail. Et voilà, c'est pas le sujet de mon exposé, mais donc j'ai pas mal travaillé là-dessus. Et j'ai beaucoup aussi travaillé sur la relation affective entre éleveurs et animaux, pour montrer que les éleveurs et animaux étaient unis par un lien, par des liens affectifs, alors complexes. Et puis du coup, ça m'a amené à travailler sur la mort des animaux, l'abattage des animaux, puisque justement, s'il y a une relation affective, comment on fait entre attachement et détachement pour travailler en élevage, pour là aussi tenir la difficulté d'aimer les animaux et pourtant à un moment donné de rompre le lien, etc. Et puis ces dernières années, et c'est l'objet du livre qu'a présenté Estelle, j'ai travaillé sur les théories critiques envers l'élevage, et la mise en place d'une agriculture sans élevage et les liens que je vais développer là, entre la cause animale et le capitalisme. Donc je vais commencer mon exposé voilà, par ça. C'est que, pour contextualiser la situation actuelle, bon, je pense que vous le ressentez, on est dans une situation très critique de l'élevage et des relations de travail aux animaux de ferme. Il faut souligner que ces relations critiques, en fait, le fait de dire que l'élevage c'est mal, qu'élever les animaux c'est mal, que tuer les animaux c'est mal, que les manger c'est mal, c'est vraiment quelque chose d'inédit, ça n'est jamais arrivé avant, il n'y a jamais eu une critique ni une critique aussi fondamentale de l'élevage, ni même aussi violente. Et donc, juste pour remonter un petit peu le temps, pour poser le contexte à propos de cette critique, elle remonte, en fait, on peut la situer à la... parce que ce rapport est souvent cité, dans un rapport de la FAO qui s'appelle Livestock Long Shadow, en français, l'ombre portée de l'élevage. Et c'est le premier rapport, à ma connaissance, qui met en accusation l'élevage en tant qu'il est producteur d'effets de serre, dégradateur de l'environnement, dangereux pour la santé, pollueur des eaux, etc. Enfin, qui fait un tableau critique de l'élevage du point de vue de l'environnement. Et donc, c'est un rapport qui a été extrêmement cité depuis. Alors, avec des transformations, par exemple, c'est dans ce rapport qu'on lit que l'élevage est responsable de 18% des gaz à effet de serre. Alors, c'est un chiffre qui a été revu à la baisse et qui est sans arrêt revu à la baisse en fonction des choses qu'on prend en compte. Mais c'est ce chiffre de 18%, et il est issu de ce rapport-là qui date de 2006. Et donc, en fait, voilà, il a en fait assis les premières bases d'une critique radicale de l'élevage. Alors, après, à partir de là, il y a eu une espèce de montée médiatique de la critique de l'élevage, dans les grands journaux, à la télé, dans des documentaires, voilà, avec pour porter à la fois la violence envers les animaux et l'effet dévastateur de l'élevage sur l'environnement, avec une injonction qui va avec, c'est-à-dire manger moins de viande, qu'on nous répète, je pense que vous le percevez bien, qu'il y a une injonction à la fois de l'État, à la fois des certains personnels de santé, des défenseurs des animaux, etc., de dire mangez moins de viande, mangez moins de viande, mangez moins de viande. Alors, à propos de cette histoire de manger moins de viande, lundi sans viande, etc., la cantine végétarienne, enfin voilà, une injonction à diminuer les protéines alimentaires dans notre alimentation. Alors ça avec deux une absence de distinction de ce sur quoi je vais revenir. Non, d'ailleurs, je ne vais pas y revenir, je vais le dire tout de suite. C'est une absence de... Si je vais y revenir après, mais enfin, une absence de mise en évidence de la différence entre l'élevage et les productions animales. Alors ça, c'est le cœur de mon travail depuis 20 ans, de montrer que élever les animaux, ce n'est pas la même chose que produire de la matière animale. Que élever les animaux, c'est un rapport historique aux animaux de travail, avec des rationalités multiples, dont des rationalités très fortes relationnelles, ce que j'ai montré notamment dans ma thèse. Il y a une rationalité relationnelle du travail avec les animaux, c'est-à-dire voilà, la primauté de la relation dans le travail, des rationalités productives évidemment, puisque quand on est éleveur, il faut qu'on gagne sa vie avec ses animaux, sinon ça va pas loin. Des rationalités morales, des rationalités esthétiques, voilà, tout un ensemble de rationalités qui sépare ce rapport de travail aux animaux en élevage de celui qui est construit par les systèmes industriels et qui consiste à produire la matière animale à partir des animaux. Donc là, je vais revenir après comment a été conceptualisée cette production animale. Mais donc dans les rapports, par exemple, dans le rapport de la FAO et dans tout ce qui est écrit ensuite et même écrit aujourd'hui, vous entendez dire il faut manger moins de viande. Mais on ne vous dit pas il faut manger moins de viande issue des systèmes industriels, par exemple. On dit qu'il faut manger moins de viande, il faut manger moins de viande, on ne vous dit pas laquelle et pourquoi. C'est-à-dire, est-ce que l'impact d'un feedlot américain sur l'environnement, c'est le même que l'impact d'un éleveur de bovins dans le Cantal? Enfin, maintenant, évidemment, on sait bien que ce n'est pas du tout la même chose, puisque les prairies capturent le carbone au lieu d'en dégager. Donc, il y a une espèce de flou qu'on trouve déjà dans le terme élevage industriel, puisque élevage industriel, c'est un oxymore. Soit on fait de l'élevage, on élève les animaux, soit on est dans l'industrie. Dans ce cas-là, ça n'a rien à voir avec l'élevage, quoi. Donc cet oxymore élevage industriel, il est très courant, il est utilisé tout le temps partout, mais c'est une manière d'empêcher de penser les différences entre élever les animaux et les produire. Et donc il y a cette injonction contextuelle à manger moins de viande, avec aussi une ambiguïté sur... et qu'on retrouve, par exemple, quand vous allez au supermarché, dans le produit veggie, par exemple. Le terme veggie, qui à la fois voudrait dire vegan et à la fois végétarien. Or, vegan et végétarien, c'est pas du tout la même chose, quoi. Être vegan, c'est voilà, supprimer complètement les animaux de notre alimentation et de notre vie, en fait. Alors qu'être végétarien, bon, c'est simplement ne pas manger de viande ou de poisson, mais donc en mangeant quand même du lait, du fromage, des œufs, donc en fait en dépendant de l'élevage. Donc c'est très différent. Les végétariens, ils ont intérêt en fait à ce qu'il y ait un élevage digne de ce nom, parce qu'eux-mêmes, bah, ils sont engagés dans l'élevage. Et même si les végétariens ne mangent pas de viande parce que l'abattoir, ceci, cela, en fait, bah, malheureusement, s'ils mangent des fromages, s'ils mangent des œufs, etc., ils sont aussi responsables de la mort des animaux, parce que derrière le fromage de chèvre, il y a la mort des chevreaux, il y a la mort de la chèvre de réforme, etc. Donc, il y a... Et tout ça, on ne le retrouve pas dans l'ambiguïté des termes... voilà, veggie, par exemple, veggie, voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc il y a un flou, il y a une désinjonction liée à la violence, à la critique de la violence envers les animaux. Et en même temps, voilà, il y a des ambiguïtés, on ne sait pas trop de quoi ça parle. Alors, cette critique, en fait, depuis voilà, moins de 10 ans, elle est rentrée dans l'agenda politique. Et donc, il y a une influence très nette, enfin, je pense que vous le voyez dans les élections municipales, une influence très nette alors, de ce que je vais appeler les animalistes pour voilà, rassembler, considérant quand même que dans ce mouvement, il y a des différences entre, voilà, entre les personnes et les groupes, quoi. Mais, globalement, on va dire, les animalistes, leurs revendications, leur théorie, c'est celle de la libération animale, notamment du fondateur des théories de l'éthique animale, qui est Peter Singer, qui a été après développé par d'autres théoriciens. Donc l'idée, c'est que, en gros, c'est que les animaux... enfin, qu'il n'y a pas de primauté de l'espèce humaine sur les autres espèces, et qu'on doit donc considération et prise en compte des intérêts des animaux, ce qui empêche non seulement de les élever et de les tuer, mais et de les manger, mais même de les domestiquer. Et donc, voilà, fondamentalement, l'animalisme, c'est une critique de la domestication, donc au nom du fait que les espèces, enfin l'espèce humaine, n'a pas à prendre le pas sur les autres espèces. C'est l'antispécisme. Voilà, on peut y revenir après si vous voulez. Et donc, il y a cette mise à l'agenda politique qui est soutenue, en fait, par quelque chose d'assez inédit, là aussi. C'est l'influence des travaux théoriques, notamment des travaux universitaires, notamment aux États-Unis, des travaux théoriques sur la mise à l'agenda politique de l'animalisme, c'est-à-dire le fait qu'un universitaire, il assume d'être aussi militant de la cause animale. C'est ce qui s'appelle aux États-Unis un animal activiste. On peut être universitaire et à la fois universitaire voilà, et afficher qu'on est un activiste de la libération animale, ce qui est assez inédit quand même dans le fonctionnement de l'université aux États-Unis, où, même si évidemment il y a les précédents sur le féminisme, etc., hein, puisque tout ça quand même c'est un fil. Voilà. Et donc aujourd'hui, voilà, le contexte, c'est ça, c'est des rapports de force, en fait, on va dire, entre voilà, qui sont historiquement situés par ce rapport de la FAO, critique contre l'élevage, avec d'un côté des animalistes voilà, dont le message c'est que les animaux sont nos prochains, donc on ne peut pas les tuer ni les manger, donc il faut développer une agriculture sans élevage et en finir avec l'élevage. Et puis de l'autre, les productions animales actuelles, par exemple, comme elles sont en France, avec ce que vous avez entendu là, dire, l'agribashing, etc. Donc un mouvement contraire qui vise au contraire à minimiser la critique contre l'industrie, que ce soit d'ailleurs les critiques animalistes ou la critique des pesticides, etc. Donc il y a une position défensive des productions animales, une position offensive des animalistes. Et donc c'est important, enfin, ça aboutit aujourd'hui, d'un point de vue politique par exemple, au fait que il y a des alliances politiques, par exemple entre les Verts et le Parti animaliste, qui font que cette question de la place des animaux dans notre société, c'est devenu un sujet politique, un objet politique qui rentre dans la vie des partis politiques et dans l'orientation politique d'une municipalité, d'un pays, etc. Donc on en est là, voilà. Et en fait, je reviens sur l'écriture de mon livre. Voilà, ce qui est étonnant pour quelqu'un comme moi qui travaille depuis 20 ans sur et contre les systèmes industriels, c'est en fait l'apparition, on va dire, assez soudaine, même si, je vous dis, on peut la dater de ce rapport de l'IFOG 2006, la montée en puissance très rapide et assez surprenante, c'est de ce mouvement animaliste par rapport au fait que ces systèmes industriels existent depuis 50 ans, plus de 50 ans. Enfin, c'est-à-dire, je vais revenir sur l'historique de leur construction, mais concrètement, en France, en Europe, ils existent depuis 50 ans, depuis l'après-guerre. La production de poulets de chair, même la construction théorique d'un animal qu'on appelle poulet de chair, c'est-à-dire qu'un animal qui est un poulet, qui n'a son existence que dans le fait qu'il est, il est supposé grossir, alors au mieux en 180 jours, au mieux, et au pire en 40, poulet de chair, ça s'appelle poulet de chair, et derrière ce poulet de chair, derrière la poule pondeuse, il y a des filières, des organisations derrière le porc charcutier, c'est des choses, c'est des concepts de production des animaux qui renvoient aux productions animales. Il y a 50 ans d'histoire, et donc c'est pas nouveau. Enfin, tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, dans les documentaires, etc., les cochons enfermés, les truies, ceci, cela, ça existe depuis les années 60 pour les volailles, 70 pour les cochons. Et moi-même, je travaille et je décrypte et je dénonce et j'analyse, etc., et j'ai publié moult articles et livres, etc., sur ce sujet, et moi, je parle de moi parce que je sais ce que j'ai fait et j'ai travaillé sur la filière porcine, mais il y a d'autres travaux sur d'autres filières qui n'avaient aucun effet sur personne. Enfin, je veux dire, si un livre qui s'appelle Les morts n'est pas notre métier, que j'ai publié en 2003, très très critique des systèmes industriels, et c'est le moins qu'on puisse dire, vraiment très 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 violent. Le Monde n'a pas fait la une là-dessus, pas plus que Libération, voilà. Donc il y a cette montée en puissance aujourd'hui, donc je me suis demandé, et parce que justement moi-même j'ai bataillé pour dénoncer ces systèmes industriels en pure perte, d'un seul coup il y a cette émergence de la critique des systèmes industriels, des gens d'un seul coup qui ont l'air de découvrir, des gens qui ont mon âge, qui ont l'air de découvrir les systèmes industriels comme s'ils venaient de naître, que quelqu'un qui a 18, 20 ans, 25 ans, il découvre ces systèmes, c'est tout à fait logique. Par contre, quelqu'un qui a 50, 40, plus de 40 ans, c'est pas... Non, on se demande qu'est-ce qu'il faisait ailleurs et il regardait, quoi. Je me suis demandé, en fait, pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant cette critique des systèmes industriels alors que ces systèmes existent depuis longtemps, qu'ils ont été dénoncés depuis longtemps, que tout le monde savait comment était ? Tout le monde ! Le ministère de l'Agriculture, les journalistes, enfin, c'est en vérité ces gens font semblant de découvrir, ils ne découvrent rien. Enfin, je veux dire, c'était pas un secret. Seulement, il y avait un voile pudique jeté sur tout ça. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce qui était voilé soit soudain dévoilé, et avec en plus cette radicalité, cette violence, parce que du coup non seulement c'est dévoilé, mais en plus ça mène à des rapports violents entre éleveurs et animalistes, et à une critique du coup radicale de l'élevage, c'est-à-dire il ne s'agit pas pour les animalistes de refaire de l'élevage, de soutenir l'élevage paysan, tout ça, non, il faut détruire l'élevage, sortir de l'élevage, ne plus faire d'élevage, ne plus domestiquer les animaux, donc quelque chose de vraiment radical. Donc on est passé d'une situation où personne ne voit rien, tout va bien, à une situation où on ne fait plus d'élevage, c'est inadmissible, c'est quelque chose de très, très bizarre avec une montée, alors que j'ai repéré dans le livre, par exemple L214, puisque c'est l'association animaliste qui porte le plus la critique de ces systèmes, qui avait en 2014, ils avaient 28 occurrences dans la presse. En 2018, ils en avaient 690. Donc, montée exponentielle de cette association dans les médias, avec, assez en fait incompréhensible. Et donc, en fait, pour le dire rapidement, je me suis dit que, qu'est-ce qui est différent aujourd'hui, qui était d'hier, enfin, qu'est-ce qui, hier, n'intéressait pas, qui intéresse aujourd'hui, outre le fait de la puissance médiatique des réseaux sociaux. Évidemment, là, on ne peut pas nier qu'entre écrire un livre ou écrire des articles et puis mettre des images sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le même impact. Ça, c'est vraiment évident. Mais en même temps, la puissance médiatique, elle passe beaucoup par les journaux, notamment par Le Monde, qui a fait nombre de unes sur les animaux, d'ailleurs qui continue, enfin, je veux dire. Et donc, en fait, l'hypothèse que j'ai travaillée dans ce livre, c'est que ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'il y a des alternatives qui existent, qui n'existaient pas avant, des alternatives à l'élevage. Par exemple, si il y a 20 ans, il y a 10 ans, même il y a une dizaine d'années, on avait pris en compte les critiques contre les systèmes industriels qui sont les mêmes que celles qu'on entend aujourd'hui, c'est des systèmes immonde, abominable, vraiment, moi personnellement, j'ai pas de mots pour décrire cette façon de traiter les animaux, c'est vraiment inhumain, voilà, c'est quelque chose qui nous dégrade en tant qu'être humain. Mais si, il y a 10 ans, on avait dit, système immonde, là, on peut pas continuer comme ça, on a fait une grosse erreur, là, c'est pas possible de traiter les animaux comme ça, etc., qu'est-ce qu'on faisait à la place ? C'était quoi l'alternative ? L'alternative, il n'y en avait qu'une, c'était de refaire de l'élevage, c'est-à-dire de dire, on casse toutes ces baraques industrielles, on installe des paysans, on refait de l'élevage, on arrête ce processus d'industrialisation et on refait de l'élevage. C'était pas intéressant au sein du système capitaliste de choisir cette voie. Considérant que l'élevage, justement, c'est un... Enfin, je vais y revenir, l'élevage lui-même, c'est un genre d'artisanat où il y a beaucoup d'autonomie. Enfin, ce n'est pas les éleveurs qui enrichissent Monsanto, Cargill, les boîtes d'aliments du bétail, de bâtiments, de ci, de ça. Et donc, silence. Alors qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui monte en matière d'alternative à l'élevage, c'est l'agriculture cellulaire. C'est-à-dire, le prototype de l'agriculture cellulaire, c'est la viande in vitro, mais pas seulement. L'agriculture cellulaire, c'est en fait la substitution de produits biotech aux produits animaux. Alors, il y a à la fois l'agriculture cellulaire en tant que biotech, par exemple la viande in vitro, et puis il y a ce que vous pouvez voir dans tous les magasins, la substitution par des produits végétaux, des produits animaux, tout ce que vous voyez là, les produits vegan là, à base de soja, de légumineuses, etc., qui ont pris place dans les magasins de manière exponentielle. Mais c'est surtout, à mon sens, c'est mon hypothèse, c'est surtout, même s'il y a... Comme il y a un nouveau marché, évidemment, il y a des rapports de force entre l'industrie du végétal et l'industrie de la production animale. C'est une dynamique, on ne sait pas ce que ça va donner finalement. Mais donc cette agriculture cellulaire, en fait, elle est issue des travaux sur la production de cellules, par exemple en médecine, pour remplacer les tissus, enfin voilà, et donc il y a des gens qui se sont avisés que si on était capable de faire pousser du muscle pour en médecine, on pouvait aussi finalement peut-être consommer ces muscles. Et donc à partir de 2013, époque où un chercheur biologiste qui s'appelle Marc Post qui a fait un, on va dire, un tabac avec le premier hamburger in vitro. C'est-à-dire qu'il a fait une présentation très médiatisée de ce premier hamburger in vitro. Et depuis, en fait, il y a eu voilà, des investissements énormes dans ce domaine et la multiplication, donc, que je décris dans mon livre, de start-up qui produisent ce qu'on appelle la viande in vitro ou alors du lait in vitro, c'est-à-dire du lait non pas fait tiré de la mamelle de la vache, mais fait à partir de levures OGM ou du faux cuir ou du faux foie gras, comme il y a une start-up en France qui travaille sur le faux foie gras, enfin faux foie gras, c'est-à-dire justement c'est là, le problème, c'est que ça ne se présente pas comme du faux. Et donc voilà, cette agriculture cellulaire, elle est l'alternative qui manquait en fait au sein du système capitaliste pour dire bah oui, maintenant on peut se passer de l'élevage et du coup maintenant on peut porter une critique radicale et dire que alors c'est d'autant plus possible qu'il y a une réelle collusion d'intérêts justement entre le mouvement de défense des animaux et les start-up de la viande in vitro qui sont soutenues par, j'ai oublié de le dire, mais par les multinationales les plus puissantes. Quoi. Les investisseurs de l'agriculture cellulaire, c'est Bill Gates, c'est des milliardaires en fait, des gens comme Leonardo DiCaprio par exemple qui a investi dans la viande in vitro, le patron d'Amazon, le patron de Facebook, enfin voilà, tous ces gens qui ont une masse financière énorme et qui investissent dans l'agriculture cellulaire. Et avec un lien donc, que j'ai montré dans le livre, avec les défenseurs des animaux, ce qui n'est pas évident au premier abord, parce qu'on se dit, bah, finalement, les défenseurs des animaux, ils défendent les animaux, donc remplacer les animaux de ferme par des biologistes ou par des incubateurs, c'est pas. Mais en fait, c'est pas si nouveau, parce que dès 2008, par exemple, la grosse association PETA aux États-Unis, qui est une grosse association de défense des animaux, avait proposé $1 million aux chercheurs qui trouveraient un procédé de viande in vitro. Donc en 2008. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Marc Post s'était lancé là-dessus. Il y avait déjà le début d'une dynamique. Et donc depuis, il y a eu en fait une, on va dire un choix. Alors même si c'est pas, eh bien, parce qu'on me dit, voilà, tous les véganes ne sont pas pour la viande in vitro, certes, mais les grandes associations et puis celles qui ont la parole et celles qui ont les moyens, elles soutiennent la viande in vitro. Par exemple, une association comme Gaïa en Belgique, une association de défense des animaux, a un site qui s'appelle Viande cultivée. Viande cultivée, donc on est sur le site de Gaïa, le site de Gaïa renvoie à son site Viande cultivée, où le message c'est la viande in vitro qui réunit les amis des animaux et les amateurs de viande. Voilà. Donc il y a l'idée que on va se sortir de la violence industrielle contre les animaux et de l'élevage, parce que c'est pas seulement la violence industrielle que critiquent les animalistes, mais c'est aussi fondamentalement l'élevage en tant qu'il est un rapport de travail uniquement vu comme rapport d'exploitation et surtout qui s'enracine dans la domestication des animaux. Et donc sortir de là par la production de matière animale in vitro, quoi. Et donc il y a non seulement ce que j'ai montré, il y a non seulement voilà, une collusion idéologique, c'est-à-dire que voilà, à la fois les start-up, les multinationales travaillent à développer une agriculture sans élevage, ensemble, mais aussi il y a des circulations entre ces deux mondes. Alors des circulations d'argent, comme par exemple L214 qui touche $1 million d'une fondation américaine qui promeut la viande in vitro. Ça fait un cinquième de son budget. Donc donc ça c'est une collusion claire, une circulation d'argent. Il y a aussi des circulations d'idées, par exemple deux personnes très impliquées dans la cause animale. D'un point de vue théorique, Peter Singer, qui est vraiment le pape de la défense des animaux, aujourd'hui, il est impliqué dans la promotion de la viande in vitro, dans un truc qui s'appelle Agricultural Cellular Society, de même que Paul Shapiro, qui a d'ailleurs écrit récemment un bouquin là-dessus, sur la viande in vitro, qui était lui aussi investi dans la cause animale. Donc il y a une circulation d'argent, une circulation d'idées et de personnes qui naviguent entre ces deux mondes, en fait. C'est pas deux mondes étanches l'un à l'autre qui iraient dans la même direction de façon parallèle, c'est deux mondes qui s'imbriquent et qui vont effectivement dans la construction d'une agriculture sans élevage. Alors, ce qui m'a intéressé aussi, outre ce truc voilà, qui répond à la question pourquoi maintenant, pourquoi maintenant ? Parce qu'on est dans un système capitaliste et c'est plus intéressant maintenant de produire de la viande sans les animaux qu'avec. Ben, je pense que ça, c'est voilà. Mais il y a aussi le fait que les gens disent, journaliste, ou par exemple Paul Shapiro dans son livre, c'est merveilleux, la viande in vitro, l'innovation, une rupture avec le monde ancien, etc. Alors il y a une rupture avec le monde ancien, je vais y revenir effectivement, mais il y a surtout une continuité, c'est-à-dire que quand les productions animales au XIXe siècle s'emparent du rapport de travail des paysans aux animaux, avec la naissance d'une discipline qui s'appelle la zootechnie, Ils ont dans l'idée de faire de la relation de travail aux animaux quelque chose de rentable. Alors on est au 19e siècle, milieu du 19e siècle, naissance du capitalisme industriel, développement de l'industrie. Enrichissez-vous, la course à l'argent qu'on trouve chez Balzac, etc. Ce monde-là, qui a une pulsion effrénée de recherche de profit, colonialisme, etc. Enfin bon, voilà, vous voyez, connaissez bien dans ce monde-là, du coup, les zootechniciens, enfin les agronomes, des vétérinaires qui se disent mais finalement toute la nature devient ressource et matière à profit. Et les animaux, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en tirer quelque chose alors qu'au moins des paysans là ils font rien. Alors évidemment, c'est pas comme ça aussi brutal, hein, parce qu'il y a toutes les transformations en amont de l'élevage au XVIIe, XVIIIe siècle, avec des recherches d'amélioration des animaux, etc. Mais là, il y a quand même quelque chose qui change, c'est la création de la zootechnie, la conceptualisation de l'animal comme machine animale. C'est-à-dire là, c'est vraiment la zootechnie, en fait, construit, mais alors, ex nihilo, un appareillage conceptuel pour dire les animaux, c'est... C'est des créations du travail humain, et donc ils sont au service de la production et du profit. Et donc il y a à la fois la construction de la production animale, comme ils disent à l'époque, c'est-à-dire le fait que c'est plus de l'élevage qu'on fait, mais c'est la production. Alors ils ne le disent pas comme ça, mais c'est ça, de la matière animale. Et le fait, alors il y a quelque chose de passionnant, moi, je ne veux pas y passer 3 heures, mais quelque chose que je trouve passionnant, parce que mon sujet, c'est la relation de travail aux animaux, le fait que cette construction de la zootechnie, elle s'appuie sur la sortie des animaux du travail. C'est-à-dire, les animaux, en fait, sont au travail avec les paysans, mais pour qu'ils deviennent des machines animales, il faut les sortir du travail et en faire des machines. Et donc, il y a toute cette théorie. Elle dit, par exemple, je vous renvoie à des livres de zootechnique qui sont sur Gallica. On peut les lire en ligne. Et donc, l'idée, c'est ça. Les animaux, en fait, enfin, je le dis aussi par rapport à ce qu'on peut lire dans les magazines actuellement. On découvre que les animaux sont intelligents, les cochons sont intelligents, les poules sont intelligentes. Alors, il y a plein de magazines comme ça qui ont l'air de découvrir que les animaux sont intelligents. Alors qu'en fait, quand on relit cette littérature, on s'aperçoit qu'au XIXe siècle, et d'ailleurs on peut penser, même si les paysans n'ont pas écrit de livres, que justement, évidemment, ils comptaient sur l'intelligence des animaux pour travailler, mais au XIXe siècle, il y a une entreprise d'écrasement de l'intelligence des animaux pour qu'ils s'adaptent à leur fonction d'automate qu'on leur destine. Donc il y a une mise au pas, on va dire, de l'intelligence animale. Voilà, par exemple, il y a un type qui s'appelle Dechambre qui écrit, voilà, on sait que les animaux sont intelligents, mais il faut réduire cette intelligence parce qu'il faut qu'ils deviennent des automates comme Descartes les a décrits. Et un autre qui dit on va aller aussi loin qu'on peut dans l'écrasement de cette intelligence, même si on ne peut pas tout écraser, sinon évidemment on écrase l'animal tout autant. Et donc ça va avec l'idée que cet écrasement de l'intelligence des animaux, par cet écrasement de l'intelligence des animaux et par leur réduction à la fonction, à une fonction et un statut de machine, on va faire la race industrielle, les races industrielles, et donc les races industrielles, les races de la modernité, contrairement aux paysans dont ils disent clairement que c'est les races issues de la pauvreté, de l'ignorance et de l'inculture. Donc il y a un rapport de force qui s'installe à cette époque entre ces zootechniciens qui veulent réduire les paysans à leur, et les animaux à un statut d'obéissant, quoi, de gens qui font ce qu'on leur dit, et rien de plus, rien de moins, et les animaux et les paysans. Et puis les vétérinaires, parce que les vétérinaires, enfin, on ne dit pas assez, mais ils ont un rôle central dans l'industrialisation de l'élevage, que c'est à cette époque que se construit la science vétérinaire contre l'empirisme des maréchaux ferrants. Et donc voilà, que les vétérinaires sortent de leur statut de bouseux à peu près équivalent à celui des paysans, et qu'ils acquièrent un statut de notable grâce à cette idée qu'ils pratiquent une science vétérinaire. Et donc ils ont pu après les méthodes évidemment des maréchaux ferrants. Et donc voilà, ce 19e siècle, c'est ça, c'est la transformation de l'animal en machine, et l'idée que le travail avec les animaux, c'est la production de la matière animale. Et c'est ces systèmes industriels qu'on connaît aujourd'hui, c'est ça, en fait. C'est, par exemple, pour citer la production porcine que je connais, c'est une truie, elle est dans le bâtiment, elle est dans un box, dans un bâtiment, dans un ensemble de bâtiments. Voilà. C'est un lieu fermé de partout, avec un emboîtement d'enfermement. Et cette bestiole, elle est voilà, enfermée dans une cage avec ses porcelets, elle ne peut pas se lever, pas se coucher, elle ne peut rien faire. Et elle est là pour produire la matière animale porcine, le porcelet. C'est-à-dire, les productions animales, c'est une industrie de l'extraction. C'est ce que j'avais écrit dans un livre qui s'appelle Cochon d'or. C'est-à-dire, on extrait en fait la matière animale du corps des animaux, que ce soit le lait, que ce soit le cochon, que ce soit la poule. Enfin, je l'ai vécu en production porcine, puisque la production porcine est arrivée à un tel niveau de productivité que si une truie met bas, en fait, on ne peut pas attendre que le dernier porcelet soit né, parce que sinon il serait mort. Et donc, on va chercher dans l'utérus de la truie le porcelet. Donc, on a vraiment un travail d'extraction de la matière animale du corps des animaux. Et donc, ce processus d'extraction, c'est l'industrie lourde des productions animales. Et analysé, c'est le fait que finalement la viande in vitro, c'est pas une rupture, c'est vraiment la suite de ce qui précède. C'est-à-dire que la zootechnie a conceptualisé l'extraction de la matière animale à partir des animaux. Les start-up et les multinationales sont en train de conceptualiser l'agriculture cellulaire, l'extraction de la matière animale à partir de la cellule. Donc en fait, c'est pas le système de pensée qui change, il n'y a rien de révolutionnaire de ce point de vue-là. D'un point de vue technique, c'est qu'on change simplement de niveau d'extraction. Voilà, c'est ça l'agriculture cellulaire, en fait. C'est un changement d'extraction de la matière animale. C'est ça que j'ai essayé de montrer, c'est que le système de pensée reste le même. C'est-à-dire que l'animal, même pour le dire vite, mais il n'y aurait pas d'agriculture cellulaire s'il n'y avait pas eu la zootechnie. L'agriculture cellulaire, elle n'aurait pas pu être issue de l'élevage, parce que c'est deux mondes complètement différents. Par contre, elle est bel et bien la suite de la production industrielle, qui fait que finalement, la zootechnie, en disant l'animal, c'est une machine, finalement, et même concrètement, c'est le contenant de la matière animale, ce à quoi on arrive, c'est qu'on change de contenant, c'est-à-dire on change de niveau d'extraction, on extrait à partir de la cellule au lieu de l'animal entier, et en même temps, la vache, qui était supposément, ou la truie, qui est le contenant de sa matière animale, finalement, maintenant, c'est un incubateur. Enfin, on remplace la vache par un incubateur. L'incubateur, c'est là où on fait multiplier les cellules. Et donc, tout ce processus, ça aboutit à la fois à exclure les animaux du travail, c'est-à-dire que, bon, ça, je n'ai pas spécialement prévu d'en parler, mais on peut en parler. Tout ce processus d'industrialisation a fait que les animaux sont sortis du travail, puisque quand on transforme une vache en automate ou une truie, on la transforme en machine, et du coup, une machine, elle fonctionne, quoi, elle ne travaille pas. Pour travailler, il faut s'investir dans le travail. C'est un sujet qui travaille. Il n'y a pas de travail s'il n'y a pas un sujet du travail. Il n'y a pas de travail si quelqu'un ne travaille pas. Même si on entend couramment dire que le robot travaille, l'aspirateur robot travaille, ou le robot dans une stabulation travaille. Non, les robots, ils ne travaillent pas, ils fonctionnent. C'est des machines, quoi. Et donc, on a transformé les animaux qui travaillaient, c'est-à-dire qui faisaient des choses par eux-mêmes et en lien avec leurs humains, en automates qui fonctionnent. Et donc, finalement, on arrive à l'incubateur. Effectivement, c'est l'objet, c'est une machine qui multiplie les... Et donc, voilà, il n'y a pas de rupture de sens, de rupture de monde... Entre le monde de la des productions animales et le monde de l'agriculture cellulaire. Alors là, la grande différence vraie et qui fait qu'on passe d'un système à l'autre, c'est d'une part les impasses dans lesquelles sont les productions animales, les impasses environnementales, impasses morales, etc. Et surtout le fait que là, on va changer de niveau d'échelle en termes de profitabilité, quoi. Alors, si les productions animales étaient rentables, là, l'agriculture cellulaire, là, quand on voit les projections de profit, c'est des milliards de milliards. Il n'y a même pas de mots, je crois, il y a billiards pour dire milliards de milliards, mais c'est même le niveau au-dessus, quoi. C'est nourrir le monde. Autant cette idée que les paysans ils devaient nourrir le monde, ça a été porté dans le cadre de la modernisation, de l'industrialisation de l'élevage. Voilà, que les paysans devaient nourrir le monde, qu'il fallait produire, produire, produire. Là, l'idée des concepteurs de l'agriculture cellulaire, c'est vraiment ça. C'est vraiment, au premier degré, nourrir le monde en mettant la main sur la production alimentaire. Donc c'est, voilà, au sein du capitalisme, c'est, non seulement ce n'est pas une rupture, mais même c'est un accroissement, en fait, de l'asservissement des humains et des animaux un système alimentaire dont on est dépossédé petit à petit. Et alors évidemment, il y a une contradiction très forte. Quand on considère les animalistes, bien souvent liés par exemple avec les Verts, qui sont porteurs d'écologie, de soutenir un tel système qui est complètement anti-écologique. Il y a rien, c'est absolument pas écologique. C'est au contraire, c'est une... En sortant les animaux et les humains du travail, parce que derrière ces incubateurs, évidemment, il n'y a plus de travail humain. Un incubateur, il a besoin de personne. Les seuls qui travailleront, c'est les biologistes qui sont en train de multiplier les cellules, inventer les trucs, etc. Eux, ils travaillent. Mais après, une fois que la cellule, elle est en multiplication dans l'incubateur, on peut multiplier les incubateurs et tout ça est fait par des robots. Donc, il y a une sortie du travail humain, donc une tendance générale du capitalisme aujourd'hui. Et évidemment, une disparition, même pas une sortie, mais une disparition du travail des animaux, puisque du coup, évidemment, il n'y a plus d'animaux de ferme. Si on remplace les animaux de ferme par des incubateurs, ils existent purement et simplement plus, quoi. Donc, là, il y a déjà quelque chose d'étrange que ce soit les animalistes qui soutiennent ça, puisque ça mène à la disparition des animaux de ferme. Alors bon... C'est sur le fond théorique, comme je le disais, vu que la critique centrale, c'est la domestication, c'est pas tellement étonnant, mais c'est étonnant du point de vue des représentations globales que les défenseurs des animaux, ils aiment les animaux, supposément. Donc en fait, c'est très bizarre de dire qu'on aime les animaux et qu'on s'apprête à les faire disparaître. D'autant que, considérant là mon objet de recherche, qui est là, justement la relation de travail aux animaux domestiques, que les animaux de ferme, la relation qu'on a aux animaux de ferme, en fait, on peut considérer que c'est l'archétype de la relation aux animaux domestiques. C'est vraiment la matrice des relations, mais que derrière les animaux de ferme, il y a aussi la relation aux animaux de compagnie, Il y a la relation à tous les animaux avec qui on vit. Les chevaux, les chiens, les chats, les perroquets, les poissons, etc. Tous ces animaux avec qui on vit, en fait, ça c'est mon hypothèse, mais la disparition, si on commence par faire disparaître les animaux de ferme, ça aura un effet domino. On ne pourra pas justifier, si on ne vit plus avec des vaches, de dire qu'on va vivre avec des chevaux. Évidemment, il n'y a aucune raison. Les chevaux aussi sont appropriés, ils sont... etc. D'autant que dans le système de pensée qui est en train de s'imposer, on peut remplacer les chevaux par des êtres virtuels. Enfin, là, je vous renvoie par exemple à Bouglione, là, qui a sorti à grand renfort médiatique les animaux de son cirque et qui les a remplacés par des hologrammes. Des animaux comme les éléphants. Il a sorti les animaux de son cirque. Donc il y a tout ce processus, en fait, non seulement... Il transforme les choses, mais là où est la rupture, pour moi, la rupture, elle n'est pas donc, vous voyez, elle n'est pas technique, elle n'est pas alimentaire, là, c'est la suite de ce qui précède. Par contre, là où il y a une vraie rupture, c'est dans la relation aux animaux. C'est le projet qu'il y a derrière ça, qui est de faire disparaître la relation aux animaux domestiques, mais c'est le projet initial hein, de l'éthique animale, de Peter Singer, de Francione, etc. C'est des gens qui sont... ou quelqu'un avec qui j'ai débattu récemment, Paola Cavalieri, qui sont convaincus que la domestication, c'est le mal d'origine. Effectivement, si on n'assume pas à la fois l'asymétrie des relations entre humains et animaux, la mort des animaux à un moment ou à un autre, on ne peut pas penser durablement notre relation aux animaux. Si on est dans l'idée que les animaux sont nos prochains, ben non, effectivement, ils finiront par disparaître quoi, de la vie en société. Et donc voilà. Et donc ce qui m'interpelle et ce sur quoi je travaille, voilà, c'est la rupture, mais là c'est une rupture anthropologique qui est en train de se construire actuellement. Quoi. Actuellement, on est en train de penser en fait une agriculture sans élevage, mais compte tenu du monde dans lequel on est, où il y a une virtualisation et une extraction de la vie, parce que quand on enlève un animal de ferme et quand on le remplace par un incubateur, non seulement on a enlevé un animal, mais on a enlevé de la vie. On a enlevé la vie. L'animal, c'est de la vie. Un incubateur, c'est une machine, quoi. Alors, il y a aussi une question alimentaire que j'ai travaillé dans un article qui est le statut de la viande in vitro. Puisque, il y a des gens qui s'émerveillent que la viande in vitro, c'est bien, puisqu'on va manger de la viande sans tuer les animaux. Je pense qu'il faut justement, et c'est bien là le problème, il faut se rappeler que s'il n'y a pas de mort, c'est qu'il n'y a pas de vie. Si on tue pas, si la viande in vitro ne nécessite pas de mort, c'est parce que justement il n'y a pas de vie. Et que la viande in vitro, c'est du vivant biologique, mais c'est du mort subjectif. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'affectivité, il n'y a pas de subjectivité, il n'y a rien. C'est une cellule qui se multiplie, quoi. Et donc, nous, on nous dit qu'on va manger ça. Un truc que moi je dis, c'est du mort vivant. En fait, c'est du mort subjectif, mais c'est du vivant biologique. Mais c'est ça le mort vivant. Et donc, il y a très peu de questions comme ça. Quand vous regardez tous les gens qui sont promoteurs de cette viande in vitro, ça, ils font complètement l'impasse là-dessus. Ce qui est quelque chose de fondamental, que là où il n'y a pas de mort, c'est qu'il n'y a pas de vie. Enfin, je renvoie à Yankelevitch ou aux auteurs qui ont écrit sur la mort. C'est quelque chose de fondamental. Quoi. Alors, c'est... comment ? Je pense que c'est... Alors, j'ai commencé à travailler là-dessus, moi, il y a une dizaine d'années. Là, je crois que c'était vraiment pas du tout à l'ordre du jour. Maintenant, ça l'est. Et ça l'est, justement, aussi politiquement. Là, il y a quelqu'un avec qui j'étais en discussion, un député qui s'appelle macroniste, qui s'appelle Loïc Dombreval, qui a travaillé, qui a été partisan des caméras dans les abattoirs, etc., mais qui a aussi soutenu un projet que j'ai défendu, moi... d'amendements pour les abattoirs mobiles dans les fermes. Enfin, ce député vient de faire paraître dans le... En fait, j'étais en discussion avec lui sur ce sujet, donc ça ne m'a pas étonné, mais il a publié ce dont on avait discuté, enfin, de son point de vue, dans le JDD, là, hier ou avant-hier, je ne sais plus, où il dit que... Alors, d'une part, que de son point de vue, le développement de l'agriculture cellulaire est inévitable. Alors, ce qui est pas ce qui est l'objet de discussion avec d'autres collègues qui me disent qu'il y a eu comme ça d'autres promesses technologiques qui n'ont jamais été tenues et que, voilà, d'un point de vue alimentaire, à un moment donné, on nous disait qu'on allait manger des pilules, du pétrole, enfin, etc., et que ça ne s'est pas fait. C'est vrai, et d'ailleurs, j'espère vraiment que ça n'arrivera jamais, mais personnellement, je crois que ça va arriver parce que tout est fait pour, enfin, tout est prêt pour. Et donc, ce député pense, lui, que c'est, il dit que c'est inévitable, que ça va arriver, que donc, la question, c'est pas est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver, c'est mais ça va arriver, et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, en France, pour s'y préparer. Et donc, son idée, évidemment, c'est de prendre place dans la compétition et de ne pas attendre que les Israéliens ne prennent. Là les start-up qui sont les plus avancées là-dessus, c'est les start-up américaines, israéliennes. Mais il y a des start-up un peu partout, y compris en France, donc il y en a au moins deux. Et donc, son idée, c'est ça, c'est de prendre place dans la compétitivité, et donc de dire, avec l'idée donc, qui ressort dans son papier, mais dont on a parlé, lui, son idée, c'est, et c'est l'idée des défenseurs des animaux qui défendent ce truc, c'est que l'agriculture cellulaire va remplacer les systèmes industriels. Donc, on va avoir, pour le dire brutalement, de la merde in vitro au lieu de la merde industrielle, mais merde pour merde, au moins la deuxième, elle ne fera pas souffrir les animaux. Donc ça, c'est l'argument des défenseurs des animaux. Avec l'idée, alors pas des défenseurs des animaux, parce que c'est l'élevage qui critique complètement, mais que, par exemple, Loïc de Dombreval pense que on peut remplacer ça, mais garder l'élevage, soutenir un élevage paysan parallèlement. Alors, outre que, un projet comme ça, c'est vraiment un projet injuste, parce qu'on sait très bien que la merde in vitro qui remplace l'autre, elle sera pour les classes populaires et pour les gens pauvres, enfin, pour une certaine catégorie de personnes, et que si jamais il reste des produits d'élevage, du genre porc noir du Bigorre, ou fromage exceptionnel, ou viande exceptionnelle, évidemment, ce sera pour une certaine catégorie de population, et que ça... puisque la masse des gens sont invités... et bientôt vont être imposés à manger de la viande in vitro. Voilà, admettons, 90% de l'alimentation, ça sera ça. Et donc, ils espèrent pouvoir sauvegarder un élevage de riches, on va dire, voilà, de privilégiés. Chose que je lui ai dit que, mon avis, ce n'était pas possible, parce que l'élevage, d'abord, c'est un rapport universel aux animaux, donc on peut raisonner franco-français ou européen-centré ou industrialisé-centré. N'empêche qu'en Mongolie, en Afrique et ailleurs, les gens, ils ont besoin des animaux. Et s'il y a des endroits, s'il n'y a pas d'animaux, tout simplement, on ne mange pas, quoi. Donc, et d'autre part, donc, d'une part, le rapport à l'animal est universel. Et d'autre part, un élevage, ce n'est pas trois animaux dans un pré, quoi. C'est des troupeaux, c'est des animaux, des individus, dans des troupeaux, dans des populations. Et tout ça existe, est beau et est viable parce qu'il y a des croisements. Il y a des... Il y a une diversité génétique, etc. On voit bien les races, par exemple, ce qu'on appelle les races à petits effectifs, c'est des animaux en danger, quoi. À partir du moment où on descend en dessous de X reproducteurs, voilà, c'est des animaux qui se reproduisent entre eux, qui sont... Il y a un stade où c'est plus viable. Donc voilà, il y a un problème là, à la fois d'injustice sociale... flagrant, de penser que ce système industriel qui est déjà la source d'injustice et de santé, voilà, on sait très bien que l'obésité, par exemple, des classes populaires, elle est en partie liée à la malbouffe, etc. Donc on va recontinuer ça avec la viande in vitro. Et puis en plus, alors là, il y a un fantasme complet des élites de s'imaginer qu'ils vont sauvegarder un élevage à leur usage. Ça c'est un peu spécial. Et donc, il y a à la fois une question politique qui est très actuelle, puisque cet article il date d'avant-hier. C'est une prise de position pour assumer au niveau de en tant que parlementaire, que oui, la viande in vitro c'est inévitable et que oui, finalement, il faut la soutenir et oui, finalement, il faut investir là-dedans. En fait, et donc, on va être amené indirectement à l'INRA, par exemple, à travailler sur la viande in vitro. Voilà. Et donc, je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. Encore un quart d'heure. Bon, voilà. Alors, ouais, parce que je crois que je peux. Non, voilà, non, mais c'est voilà, l'idée, c'est ça, de toute façon, c'est de montrer qu'il y a un fil historique, qu'il y a des rapports de classe, des rapports de force, et que ces rapports de classe, alors ce que je développe dans le livre, ces rapports de classe, ce que je viens de dire, ils sont pas nouveaux, ils existent déjà. C'est pour ça que mon livre s'appelle Cause animale, cause du capital. Ils sont déjà enracinés dès le milieu du 19e siècle. Quand je décrivais tout à l'heure l'industrialisation de l'élevage au 19e siècle, en même temps, il y a une opposition à cette industrialisation. Alors, une opposition des paysans dont on n'a pas idée, parce que justement, les paysans n'écrivent pas de livres. Et on peut voir où étaient les résistances à travers ce que les zootechniciens cherchent à briser, notamment la relation affective, les rapports moraux, les rapports esthétiques, etc. Donc ça, on peut le voir indirectement où les paysans résistent. Mais il y a aussi une résistance à la violence envers les animaux. En fait, il faut voir le 19e siècle, c'est l'époque où, en fait, pour le dire brièvement, l'industrialisation de la société, c'est, alors ça renvoie à Marx, etc., mais c'est la prolétarisation des animaux et des humains. On sort les paysans des champs et de leurs villages pour en faire des prolétaires des usines textiles, etc. Je vous renvoie à Dickens, par exemple, un bouquin de Dickens qui est merveilleux, qui s'appelle « Temps difficile », où il décrit la vie de ces gens pauvres dans les usines. Et il est intéressant aussi parce que Dickens, bon, qui lui-même était un bourgeois, il décrit l'idéologie et les représentations et les bons sentiments de la bourgeoisie vis-à-vis des ouvriers. C'est-à-dire le conflit dans la bourgeoisie de l'époque entre leur cupidité les eaux glacées du calcul égoïste, etc. Vraiment la curée, quoi, comme dit Balzac, et les bons sentiments, en fait, parce que c'est évidemment des gens catholiques, protestants, religieux, en tout cas, chrétiens. Et donc, voilà, il faut. Et donc, Dickens décrit bien ça dans Temps difficile, le conflit entre la rationalité, la cupidité et les bons sentiments. Et on le retrouve dans les transformations des rapports aux animaux, par exemple, la création de la zootechnie, la prolétarisation des animaux. Le fait que, par exemple, un animal comme le cheval, qui était l'animal des aristocrates et le gros cheval lourd des paysans, qui étaient paysans, pas les paysans pauvres, hein, les paysans pauvres, vous avez ni bœufs ni chevaux, voilà, mais l'animal des aristocrates qui devient un animal prolétaire, en fait, au 19e. Les chevaux, ils se retrouvent à tirer les omnibus. Cette prolétarisation des animaux, leur mise au travail, et par exemple, le fait de faire descendre les animaux, les chevaux dans les mines, avec les enfants, enfin voilà. Et donc, il y a tout ça, qui est une extrême violence, même une violence qu'on trouve encore aujourd'hui dans bien des pays, d'ailleurs, mais voilà, bien décrite par Engels, par exemple, sur le travail des ouvriers, et par Dickens, Balzac, enfin toute la littérature du 19e. Ces bons sentiments qui sont à la fois envers les bons sentiments des bourgeois vis-à-vis des classes populaires, voilà, et envers les animaux. Et donc, par exemple, en même temps que se crée la zootechnie, par exemple, est votée la loi Gramont en 1840, je crois, qui dit que les cochers, s'ils battent leurs chevaux, ils seront punis. Punis, d'ailleurs, j'ai regardé, c'est très important, quoi, la condamnation d'un cocher surpris à battre son cheval est très importante. Et donc, cette loi Gramont, c'est un aristocrate, ce Gramont-là, il est. Et la SPA, par exemple, qui naît à cette époque. Qui est aussi, c'est que des bourgeois, évidemment, et donc il y a ce rapport de classe-là qui existe là, entre cette bourgeoisie partagée entre morale et cupidité, et les travailleurs, et les animaux, Et donc finalement, les animaux sont l'objet de la sollicitude des bourgeois. Et il y a voilà, le vote de la loi Gramont, parce qu'il faut condamner le cocher pour violence publique envers les animaux. La loi Gramont est très perverse de ce point de vue, puisqu'elle condamne la violence publique envers les animaux, la violence publique. Par contre, le même bourgeois là, qui a des actions dans la mine ou descend des chevaux et des enfants de 5 ans, bah là, ce n'est pas une violence publique, donc il n'est absolument pas répréhensible, quoi. Donc il y a cette violence sociale enfin, dans laquelle les animaux sont pris, et qu'on retrouve en fait aujourd'hui d'une certaine manière, parce que là, comme ce que je viens de dire, ce qui se prépare, c'est une injustice alimentaire flagrante. Et c'est aussi, comment, par exemple, toutes ces théories de l'éthique animale, elles sont issues de l'université. Elles sont issues, enfin, on va dire, bon, la bourgeoisie, les classes moyennes supérieures, je ne sais pas quoi. En tout cas, voilà. Et donc, il y a le même processus de une idéologie du haut vers le bas, là, avec... avec le même rapport entre cupidité et bon sentiment. Quoi. Enfin, il y a une espèce de permanence des rapports de classe qu'on retrouve aujourd'hui dans ce développement et ces transformations de nos rapports aux animaux. Et le fait que finalement, ces animaux qui sont, depuis le 19e siècle, des travailleurs prolétaires ordinaires, vaut mieux les faire disparaître de la vue et de la circulation, en fait, parce qu'ils dérangent dans la production du profit, quoi. Voilà, et donc, voilà, il y a ce paradoxe des animalistes qui oscille entre idéologie et supposée défense des animaux, en fait, qui vise à leur disparition, quoi. Il y a des tas de contradictions, en fait, dans ce qui se passe aujourd'hui. Qui demande à être éclairé, quoi, parce que le terrain défenseur des animaux, mais aussi les start-up, je vous engage à regarder les sites des start-up de la viande nutro, ils sont hallucinants, quoi, c'est des histoires, quoi, ils racontent des histoires, d'ailleurs ils le disent, our storytelling, et c'est des salades, quoi, voilà, ils racontent des histoires, des belles histoires, alors qu'ils sont en train de construire un monde déshumanisé, dévitalisé, vraiment assez terrible si on y pense un peu plus loin. Et donc, bon, pour finir positivement, moi, mon sentiment, c'est qu'il faut, pour avoir une piste de qui ne serait pas celle-là, c'est revenir à la question centrale de nos relations aux animaux, qui est le travail, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les animaux. Alors évidemment, c'est une prise de position contre à la fois les défenseurs des animaux, les filières de production animale et les start-up, que ce qu'on fait avec les animaux, c'est qu'on travaille, et que travailler, c'est pas forcément exploiter. C'est exploiter dans un cas de porcherie industrielle, mais les éleveurs avec qui je travaille dans les montagnes ou dans les champs, dans les champs de Loire-Atlantique ou autre, c'est des gens qui ont un rapport humain, respectueux et nécessaire avec leurs animaux. Et que donc, si on prend la question de nos relations aux animaux du point de vue du travail, ce qu'on interroge, c'est à la fois le sens du travail avec les animaux, évidemment, le sens de leur vie, de leur mort, et le sens et leurs conditions de vie au travail, quoi. Que ce soit les animaux de ferme, que ce soit les chiens, par exemple, moi je tiens, et c'est une hypothèse très forte, que les animaux de compagnie, ils ne sont pas en dehors du travail, contrairement à ce qu'on entend dire et ce sur quoi on me critique. Oh là 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 là, les chiens, ceci, cela. Ben non, les chiens, ils sont aussi au travail. Un chien de compagnie, il n'est pas de compagnie par nature. Il n'est pas né de compagnie. C'est un travail. Et tenir compagnie, c'est un travail. Il l'apprend tout seul parce que, comme on ne considère pas que c'est un travail, il se débrouille tout seul. N'empêche que finalement, il a une fonction et c'est son travail de tenir compagnie. C'est vrai aussi pour les animaux dans les cirques, c'est vrai pour les animaux dans les zoos, c'est vrai pour les animaux au cinéma. Enfin, c'est des tas de terrains qu'on a étudiés avec l'équipe que j'anime, là, qui s'appelle Animals Lab. On a essayé de mettre en évidence la place des animaux dans le travail. Et donc, c'est par cette voie, à mon avis, qu'on peut sauvegarder nos relations aux animaux et transformer nos relations aux animaux, à la fois aux animaux de ferme, mais aussi à tous les animaux. Parce que ce que je disais tout à l'heure, si les animaux de ferme disparaissent, après, c'est les chevaux remplacés par des trucs virtuels, par des hologrammes, ou les chiens par des robots. Maintenant, dans les maisons de retraite, plutôt qu'une petite équipe d'animaux qui viennent tenir compagnie aux personnes âgées, on leur colle un robot dans les bras et démerde-toi avec ça. Voilà, la tendance, c'est ça. Qu'il y ait une tendance d'exclure le travail, mais aussi d'exclure la vie. Parce que voilà, la personne âgée, elle se retrouve avec une machine vendue avec le slogan « L'amour sans la litière ». Donc, voilà, c'est la... Donc ils ont l'idée que le robot, il cligne des yeux, il fait qu'il y a de l'amour là derrière. Quoi. C'est une perversion de tout ce qui fait l'humanité de l'homme. Et donc voilà, c'est contre quoi il faut lutter. Et donc le moteur de la résistance, à mon avis, c'est le travail. Voilà, je suis arrivé au bout de mon...